C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Lundi 4 octobre, bonne journée et bienvenue au 98.5. Ce matin, pour la revue de presse, c'est pas un article ou une nouvelle en particulier, c'est un constat que je veux faire pour saluer les parents qui sont à l'écoute. Et je lis beaucoup de courriels, j'entends plein de choses, mais être parent durant cette période de pandémie, gérer les rendez-vous, les tests COVID, avec le retour en classe, parfois la classe ferme, puis être capable de gérer quand même l'éducation de ses enfants, sérieusement, vous avez vraiment toute mon admiration. Parce que, on le voit, le nombre de cas touche principalement des enfants. Quand on regarde les éclosions, là, il y a des milieux de travail, mais il y a beaucoup d'endroits, services de garde, écoles primaires surtout. Et j'ai en tête un courriel d'un des parents qui m'a écrit, là, la gestion d'un enfant qui mouche, d'un enfant qui est peut-être malade, mais peut-être que c'est juste un rhume, là. Mais là, c'est un peu le médecin qui veut pas le voir, qui dit, ben non, c'est un symptôme COVID, là, vous venez pas dans mon bureau, là, vous allez ailleurs. C'est aussi d'essayer de trouver un endroit, un rendez-vous pour un test de dépistage sans avoir à traverser des kilomètres. C'est de dire, OK, l'école est fermée ou la classe est fermée, comment je fais pour gérer ça? Entre-temps, là, je travaille. Puis je profite de ce moment-là pour saluer les profs. On parle beaucoup, avec raison, là, des infirmières, puis du personnel, du réseau de la santé. Mais pour les profs, c'est une rentrée qui est toujours pas simple. Puis j'ai une pensée pour les profs du primaire. Puis là, les parents vont peut-être avoir à gérer une grève dans les CPE, là, pas partout en même temps, mais 12 et 13 octobre, tout ça peut changer. Sérieusement, quand tu combines tes responsabilités parentales avec tes obligations professionnelles, ta job, je veux dire, c'est épuisant. Il n'y a rien de plus à dire, puis je pense que c'est important de le mentionner parce qu'on revient vers des choses qui sont importantes. Premier constat qu'on peut faire ce matin. Le deuxième, dans un an, élection au Québec, puis dans quoi, un mois à peu près, là, on sera vers les élections municipales. Depuis le début, c'est très personnalisé. C'est vrai que ce sont deux orientations, je parle de Montréal bien sûr, entre Valérie Plante et Denis Coderre. Mais vous allez voir que plus on va avancer, je pense, vers la date du scrutin, les enjeux majeurs vont rester. On peut discuter politique, ton arrogant, on peut discuter de tout ça. Mais quels sont les enjeux à Montréal? Puis je le vois aussi dans vos commentaires. Puis moi, j'habite la ville et on a, je pense, un certain nombre de priorités. C'est sûr, la sécurité, on a fait un débat ici la semaine passée. C'est extrêmement préoccupant. Je reparlerai tantôt de l'opération menée dans le cadre de Centaure en fin de semaine, pour aller visiter des endroits reconnus comme étant des lieux de fréquentation de gens importants du crime organisé, de motards, entre autres. Mais aussi, au-delà de la sécurité, l'enjeu de la qualité de vie à Montréal. Et là, je parle de la propreté de la ville, je parle de la gestion des chantiers de construction, des travaux, des cônes. Ça implique la mobilité, bien sûr, le transport en commun, les infrastructures. Ce que je veux dire par là, c'est que ce débat, faut pas que ça soit juste un débat de personnalité. Qu'est-ce que les candidats nous proposent? L'ensemble des candidats, puis les équipes dans les arrondissements, parce que ça joue pour beaucoup. Il y a un article ce matin dans la presse, je dis ça comme ça, sur la taxe de transition. Quand vous arrivez, vous achetez la fameuse taxe de bienvenue. Sérieusement, là, on n'est pas loin de l'arnaque. Parce que cette taxe-là a augmenté de 50% les revenus, là, générés depuis 2018. Ben simple, le prix des maisons monte en flèche et les villes gloutonnes, où ça coûte le plus cher à administrer, ne se gênent pas. Ça devrait, justement, au-delà de Montréal, être un enjeu. À Longueuil, les recettes annuelles de la taxe, les fameux droits de mutation, là, sont passées de 20 à 30 millions. De 2018 à aujourd'hui. Laval, Sherbrooke, Trois-Rivières, Montréal, c'est en augmentation. Et là, vous regardez le prix payé par un propriétaire pour une maison de 600 000 en 2021, qui se vendait autour de 400 000 en 2018. En 2018, la taxe de bienvenue était de 4 500. Aujourd'hui, c'est 9 000. Ça a doublé en 3 ans. Puis là, c'est pas exceptionnel une maison de 600 000 piastres. Alors, ça fait partie des enjeux. Qu'est-ce que les candidats à travers le Québec dans les villes gloutonnent? Parce que les villes aiment beaucoup taxer, sans jamais trop s'interroger sur l'efficacité et la productivité. C'est pour ça que je trouve ça important qu'on commence à ramener le débat sur les véritables enjeux. Oui, il y a des questions de philosophie et d'approche, mais la taxation, la sécurité, la propreté de la ville, puis l'aménagement dans les quartiers. Et souvent, ce qui est dommage, c'est que ça prend parfois des coups d'éclat pour que des gens se réveillent. Puis là, vous allez me dire, on gueule souvent pour en ce qui concerne la situation à Montréal sur l'état de la chaussée. Puis c'est vrai, puis il faut y faire les travaux. Mais Dieu sait que ça prend du temps, puis Dieu sait que c'est pas toujours non plus très clair comme indication. Il y a un communiqué de presse qui est sorti dans les dernières heures. Le propriétaire de deux restaurants, Omar Fou et chez Éric Lussembert, qui annonce qu'il déménage de Montréal. C'est terminé dans le Vieux-Montréal. Et je vais vous résumer son communiqué. Fini les embouteillages, fini les embûches des travaux, fini l'étiquette de stationnement, 3 fois plus cher de taxes d'affaires, fini les loyers 2 fois plus chers, le saccage de mes terrasses. On va ouvrir chez Éric à Brossard le 8 octobre avec stationnement. Je ne crois plus à Montréal. C'est un personnage coloré, mais des propriétaires de restos qui se sont fait vandaliser, on connaît un ou deux, là, qui comprennent pas d'ailleurs pourquoi. Pourquoi tu t'en prends une terrasse de restaurant? T'sais? Mais faut croire que il y en a qui ont des problèmes d'agressivité. Alors, lui, donc, va annonce officiellement qu'il quitte. Puis il y en a d'autres. On revient, là, aux réalités montréalaises, tout ça à un mois des élections. Pour ce qui est de la COVID, ben, ça n'a pas vraiment bougé. Le niveau de vaccination pour les 2 doses chez les 12 ans et plus est à 85%, qui, je le rappelle, c'est exceptionnel. Et au moins une dose, là, c'est 89%. Alors, grosso modo, il y a, on peut conclure, là, autour de 10-12% des gens qui refusent la vaccination. Puis le pourcentage d'extrémistes, je veux insister là-dessus, là, ça demeure quand même marginal. Il y a des gens qui hésitent, des gens qui sont réticents pour des raisons personnelles, de santé. C'est correct. Je veux dire, ça sera jamais 100%. Mais les complètement complotistes, là, ça demeure très marginal. L'autre chose qu'il faut dire, c'est qu'on est le 4 et que le 15, c'est la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé. Les plans de contingence ont été faits et là, on a hâte de voir l'impact. Il va manquer combien de personnes? Il y avait un texte de Mylène Moisan dans Le Soleil qui racontait l'histoire d'un préposé aux bénéficiaires qui a été formé dans le cadre là, de la Grande Corvée. Et là, on arrive à terme. Puis il découvre qu'une fois son année passée, puis là, il peut quitter sans être pénalisé financièrement. Bien, les conditions de travail se détériorent. Puis il se ramasse là, avec des horaires qui peuvent changer, ça peut être n'importe quoi, n'importe quand, puis t'as pas un mot à dire. Est-ce qu'il va rester? Et c'est ça la difficulté du gouvernement Legault, là. C'est d'un côté, ben beau l'argent, mais c'est pas suffisant. Il faut sentir qu'il y a non seulement un discours de changement, mais un changement réel. Puis ça, le mammouth va pas se transformer en 2 semaines. Alors le 15... ça va être quoi l'impact sur le réseau de la santé? Combien de départs? Combien de chirurgies reportées encore ou de difficultés pour avoir accès à l'urgence? Je pense que dans la plupart des secteurs névralgiques, les gens sont déjà doublement vaccinés, mais c'est sûr que ça va avoir un impact. Autre question autour de la pandémie. Beaucoup de snowbirds m'écrivent en disant « Monsieur Arcan, à quel moment la frontière va ouvrir? » Nous autres, on laisse rentrer les Américains, il n'y a pas de trouble. Mais on ne peut pas y aller, à moins de prendre l'avion. Et tu as beaucoup de snowbirds qui se déplacent à partir de fin octobre, novembre, Floride principalement, Mexique. dans d'autres cas, et ils décident de partir avec leur VR. Alors là, tu fais quoi? Tu fais transporter ton VR, ça te coûte une fortune vers les États-Unis, tu prends un avion parce que tu peux y aller en avion, mais tu peux pas y aller en auto ou encore avec ton véhicule récréatif. Puis là, il y a des gens qui ont des locations de terrain, puis il y a des gens qui ont déjà des plans de vacances. Il n'y a pas de réponse. Le gouvernement fédéral dit que ça pourrait se décider, là, parce qu'officiellement, c'est jusqu'au 21 octobre, mais est-ce que les Américains vont prolonger? Mais nous, on laisse entrer. Mais actuellement, j'essaie de comprendre la logique pour les déplacements terrestres. Je ne fais pas trop. D'autant plus que, je rappelle, le niveau de vaccination est quand même élevé, puis que les conditions vont être posées pour ce qui est des déplacements, de présenter cette preuve vaccinale. Autre nouvelle maintenant, ça concerne les Pandora Papers qui ont été rendus publics hier par ce consortium de journalistes. C'est extrêmement intéressant, comme à chaque fois. C'est de voir comment on crée des structures financières, coquilles, bidons, pour permettre à des gens d'échapper à l'impôt de leur pays. Et on parle bien sûr des puissants et des riches. Sur la liste, vous retrouvez Tony Blair, le roi de la Jordanie, le premier ministre tchèque, Jacques Villeneuve, Shakira. Et ce sont donc des millions de pages de documents financiers confidentiels qui proviennent de 14 firmes dans 12 pays. Et ce que ça démontre, c'est la création de ce qu'on appelle des sociétés écrans pour des gens qui ne veulent pas que leurs activités financières soient connues. Elvis Stoïko est sur la liste. Et la plupart de ces gens, évidemment, vont vous dire, écoutez, moi, je ne le sais pas. Mon comptable a le mandat de, comme n'importe quel comptable, de me faire payer le moins d'impôts possible puis de rendre ça créatif. Et là, vous avez donc non seulement des gens connus, mais aussi des banquiers un peu véreux, des criminels internationaux, des espions. Autrement dit, l'élite, des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont préoccupés par ces paradis fiscaux. Puis non seulement on pense aux îles, là, on pense aux Caraïbes, mais aussi le Dakota du Sud, paraît-il, est devenu une destination extrêmement intéressante. Alors, je regardais la liste des gens. Le roi de Jordanie qui a utilisé des sociétés écrans pour acheter en secret 14 propriétés aux États-Unis. Vous avez l'ancien premier ministre Blair qui s'est servi d'une même structure pour devenir propriétaire d'un manoir à Londres. Des acteurs politiques au Liban, la maîtresse prétendue de Vladimir Poutine. Donc, on va regarder aussi l'attitude des gouvernements qui, évidemment, sont très, très pressés de venir collecter les taxes et les impôts chez les gens qui n'ont pas de mobilité. Puis un peu moins, un peu plus qu'avant, mais j'entends que ça demeure, disons, limité le combat contre l'évasion fiscale. Puis ça arrive au moment où Vincent Larouche publie son livre sur la saga SNC-Lavalin. Il sera avec nous ce matin. Et il refait toute l'histoire, j'allais dire, de la création de SNC-Lavalin, le mariage des deux entreprises et comment la Libye a été l'espèce de pivot de la culture d'entreprise, de faire affaire avec des dictateurs, des régimes corrompus pour obtenir des milliards de contrats avec une avalanche de pots de vin et soit une complicité, soit de l'aveuglement volontaire. Difficile de croire qu'autant de fric a circulé sans que la haute direction, et là je parle de Jacques Lamarre, ait été au courant. Il n'y a jamais eu d'accusation. Ça s'est limité à l'équipe de Duhem, quelques cadres dans le scandale du CUSUM. Et on va recevoir Vincent tantôt pour parler de ça. On sait que les acteurs ont été très clairs dans leur témoignage en disant que c'est impossible que la haute direction n'était pas au courant, qu'on ait permis donc des transactions de cette nature. C'est un livre ben intéressant. Si vous aimez ces histoires-là, ça va vous régaler. Et puis, il y a eu ce sondage en fin de semaine, je le disais, un an des élections. La CAQ qui domine toujours avec 47 % d'appui au Québec, c'est un niveau record, 54 % chez les francophones. Record d'un gouvernement après 3 ans, pas vu ça souvent à 47 %. Ça montre la faiblesse des partis d'opposition. Puis l'autre chose qu'on peut peut-être ajouter, c'est de voir jusqu'à quel point le PQ est en difficulté. Quand tu dis que François Legault, chez les gens qui vont voter PQ, est plus populaire que Paul Saint-Pierre Plamondon, ça va pas bien en Baptiste, là. Et clairement, l'espèce de partage se fait entre le centre-droit, si on veut, là, la CAQ, et la gauche, avec Québec solidaire. Le Parti libéral et le Parti québécois, à un an des élections, n'arrivent pas vraiment à se positionner. Et puis, un mot pour penser au combat des anciens salariés. Fameuse compagnie Aveos, ces travailleurs qui avaient perdu leur emploi, fermeture. Il y avait eu des engagements de Justin Trudeau, je me souviens, quand il était à l'opposition. Il se faisait aller d'aplomb pour défendre les travailleurs d'Aveos. Donc, ça va faire quoi, là, 10 ans pratiquement qu'ils ont perdu. Et là, ils se retrouvent contre Air Canada. Ça commence ce matin. On va suivre ça avec grand intérêt. Et ils tentent d'obtenir des dédommagements pour la fermeture sauvage de cette compagnie sous-traitante avec Air Canada.
L'essentiel de Paul Arcand. L'essentiel de Paul Arcand.
Eh bien, revenons sur ces paradis fiscaux. Hier, le Consortium international des journalistes d'investigation ont rendu public, évidemment, les conclusions. C'est une fuite massive de documents, pas loin de 12 millions de documents financiers. 14 firmes ont été touchées. Au total, 12 pays ont donc des secrets financiers, des couvertures de chefs d'État, des gens qui sont encore au pouvoir, d'autres qui ont quitté, des politiciens, des vedettes également, comme Shakira, comme Jacques Villeneuve. C'est pas la première fois qu'il y a des fuites comme ça. On a eu, par exemple, les Panama Papers. Je fais le point avec André Larrault, qui est professeur associé de la Faculté de droit de l'Université Laval. Monsieur Larrault, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on apprend dans ces documents? Est-ce qu'il y a vraiment des éléments nouveaux par rapport aux autres documents ou c'est une reproduction un peu de ce qu'on connaît déjà?
Simplement, c'est une reproduction avec d'autres noms. Davantage, bien sûr, on y retrouve plusieurs chefs d'État, des gens du monde politique. On retrouve des gens que l'on connaît, qu'on aime bien généralement sur la scène artistique ou sportive. Mais, somme toute, c'est l'utilisation d'une opacité globale qui se trouve, qui est la caractéristique fondamentale des paradis fiscaux, qui est maintenant, donc, mise à jour avec d'autres noms.
Là, on parle quoi de stratégie comptable pour payer le moins d'impôts possible?
Ce sont des stratégies fiscales, mais qui sont davantage apparentées à de la fraude fiscale. Vous savez, dans la mesure où des États continuent à permettre à des gens d'y détenir des sommes colossales, ou bien par des sociétés écrans, ou bien par des fiducies, alors que l'opacité demeure. L'opacité, donc, l'impossibilité de savoir, de connaître qui sont les bénéficiaires de ces sommes, tant qu'il y aura des États qui permettront ce genre de stratégie, il y a des personnes qui seront assez cupides et assez... qui auront un front de bœuf et qui iront utiliseront ces stratégies-là et qui feront perdre, bien sûr, des sommes importantes à l'État de leur propre résidence, que ce soit des Canadiens, des Américains, des Français ou autrement, et puis donc ces sommes-là, ces personnes-là ne paieront pas d'impôts parce que personne ne saura qu'ils ont ou qu'elles ont des sommes dans ces paradis fiscaux.
Et ces montants-là qui se retrouvent dans les paradis fiscaux sont utilisés, en tout cas j'ai vu dans plusieurs cas, pour l'achat de propriétés, pour carrément faire des investissements ailleurs avec des sociétés dont on ne connaît pas les bénéficiaires, comme vous venez de décrire. Ça veut dire que c'est des gens comme ça. Là, je pense à Tony Blair qui dit « Oui, j'ai acheté un manoir, mais c'était pour des fins de patrimoine. » C'est comme si les gens trouvaient une certaine logique à leur démarche.
Oui, ben en fait, il faut quand même comprendre que ce n'est pas illégal en soi d'opérer via un paradis fiscal. Il y a des entreprises dûment formées, qui est dûment exploitées correctement, même dans les paradis fiscaux. Mais c'est l'utilisation qu'on en fait maintenant. Et bien sûr, il y a des gens qui se disent « Moi, je ne savais pas finalement que c'était illégal. » Ben, ce qu'il faut voir maintenant ici, et la racine du problème, elle est bien simple. Il y a des vendeurs, il y a des peddleurs hein, de ces stratégies fiscales. Les grands cabinets, ou bien comptables, ou bien juristes, ou autrement de ce monde, qui cherchent à augmenter eux-mêmes leurs profits et qui vendent à ces personnes riches ou sur le point d'être riches, qui vendent ces stratégies fiscales. Or, tant et aussi longtemps que nos États, je parle du Canada, des États-Unis, des pays en général, ne s'attarderont pas ils ne mettront pas en prison ces gens, parce qu'il ne suffit plus d'imposer des peines monétaires aux vendeurs de stratégies fiscales illégales. Il s'agit de leur priver, de les priver de leur liberté, et peut-être qu'éventuellement, ils comprendront, parce que, soyons bien clairs, comme disent les politiciens, là, la pandémie que l'on connaît dans le domaine de la santé, elle existe sur le plan fiscal, c'est-à-dire c'est un problème qui est mondial, et tant et aussi longtemps qu'on ne le réglera pas sur le plan mondial, tant et aussi longtemps qu'il existera des États qui accepteront de telles stratégies dans leur propre juridiction, ben ça continuera. Mais bien sûr, pour ça, ça prend des vendeurs de stratégies, et ces vendeurs doivent être mis de côté, à l'écart du système.
Quand vous regardez ce qui se passe actuellement, avec votre expérience, est-ce que vous diriez que la lutte contre les paradis fiscaux est de plus en plus organisée, qu'il y a un peu plus de cohésion, qu'on est plus sérieux, ou si les choses avancent peu?
Ben, les choses, elles avancent. L'OCDE a quand même mis sur pied dans une table de travail, et ça avance, mais c'est à pas de tortue. Le Canada, il va avec la théorie des petits pas, et c'est long, et c'est ardu. Les tribunaux, finalement, ne s'amoncent pas suffisamment. Les fraudeurs, l'Agence du revenu du Canada ne va pas plus loin. Et quand je parle de l'agence, je parle aussi des personnes dirigeantes à la tête d'un ministère du revenu. Encore faut-il qu'elles soient compétentes, ces gens-là. Or, point interrogatif. Est-ce que les personnes nommées en poste au titre de ministre du Revenu ont la connaissance de la fiscalité? Je vous invite à vérifier les CV de la personne qui était la dernière ministre du Revenu. Et on s'aperçoit que la non-connaissance, la méconnaissance de la fiscalité fait en sorte que les gens ne connaissent pas les problèmes de la fiscalité, ne peuvent pas donc s'y attarder. Ils ne peuvent pas donc trouver de solution parce qu'elles ne connaissent pas la fiscalité, et c'est ce qui fait en sorte que ça ne va pas loin. Donc, pour répondre à votre question, c'est la théorie des petits pas. On hésite à faire finalement un mouvement global, mondial, parce que c'est complexe aussi, puis parce qu'on a toujours des bâtons dans les roues qui nous sont mis par les grands cabinets de ce monde, parce qu'aussitôt que la loi interne est modifiée, ben les cabinets, les stratèges, les personnes, les experts de la fiscalité trouvent des solutions pour contrer la modification législative interne. Donc, c'est difficile de trouver une solution permanente.
Monsieur Larrault, merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Merci.
Au revoir.
Merci, au revoir.
André Larrault est professeur associé de la Faculté de droit de l'Université Laval.
L'essentiel de Paul Arcand.
Bon, parlons du dossier des armes à feu, des fusillades à Montréal et ailleurs, Laval entre autres, les gangs, la Sûreté du Québec a mené une opération, c'est la stratégie là, Centaure. La SQ, bien sûr, mais des corps policiers un peu partout au Québec. Alors, des visites dans des établissements. On va faire le point avec Benoît Dubé, qui est le directeur des enquêtes criminelles à la SQ et qui est le patron de l'escouade de Centaure. Monsieur Dubé, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Peut-être faire un bilan. Là, vous avez visité là, avec les policiers combien d'établissements en fin de semaine?
Dans la soirée du 1er octobre et du 2 octobre, on a visité plus de 144 établissements licenciés.
Puis là, comment ils étaient choisis, puis c'était quoi le but de faire ça?
L'objectif premier, c'est certain, c'est de développer des informateurs, c'est de colliger du renseignement, c'est d'identifier des individus reliés au trafic d'armes à feu. Donc, c'est tout le temps choisi en fonction du renseignement qui est disponible avec nos partenaires pour être à la bonne place au bon moment.
Est-ce qu'il y a eu des arrestations?
Il y a eu des arrestations, 4 arrestations, mais qui touchaient plus des bris de probation.
OK. Là, est-ce que je comprends que les endroits visités sont des endroits fréquentés par des gens connus comme ayant des liens avec le crime organisé, motards ou autres?
C'est exact, M. Arcand.
Là, quel est le lien entre les motards et les gangs de rue?
Bien, si on regarde au niveau des motards criminalisés au Québec depuis plusieurs années, c'est eux qui s'occupent, entre autres, de la distribution, quoi que ce soit sur le marché, surtout au niveau du trafic de stupéfiants. Ils récupèrent, si vous voulez, un profit sur tout ce qui est vente. On peut aller jusqu'aux armes à feu, aux stupéfiants, au gambling. Donc, les motards ont la main mise, si vous voulez, au niveau de la province de Québec.
OK. Donc, ça veut dire que même à Montréal, sur des territoires qu'on pense contrôlés ou occupés par des gangs de rue, les motards sont au-dessus.
Mais si on a garde occupée au gang de rue au niveau de la rue, mais au-dessus de ça, il y a toute une structure de crime organisé, dont les BMHL, les bandes de motards hors la loi, contrôle, aussi en lien avec la mafia d'origine italienne.
Dans le fond, le message en faisant tourner des bars, puis des restos, puis des clubs comme ça, c'est de dire, regardez bien vous autres, là, c'est pas vrai qu'on va courroyer après jeunes à Montréal-Nord, puis qu'on va vous laisser tranquille.
On peut le dire de cette façon-là. Là, si vous me le permettez, je l'ai dit, on travaillait sur trois axes. Là, l'axe local, mais l'axe aussi régional, puis l'axe international, national. Donc, c'est certain, l'offre et la demande, faut couper l'offre, puis l'offre, mais c'est ça. C'est souvent des structures très organisées qui permettent de venir à bout de vendre ces armes-là à ces jeunes-là.
Pour apprendre encore une de mes expressions que vous n'êtes pas obligé de partager, là, c'est mettre de la chaleur.
Oui, écoutez, comme vous dites, il faut obligé de partager, c'est exact.
OK, ça, c'est une opération, mais il y a d'autres, puis là, je vous demande pas de me dévoiler vos techniques d'enquête ce matin, mais avez-vous l'impression que cette présence policière, puis cette chaleur que j'appelle, là, fait en sorte, parce que j'essaie de voir, là, le lien entre des jeunes qui sont prêts à tirer pour n'importe quoi, pour n'importe quel motif, puis vers n'importe qui, comment ils vont se sentir dérangés par ce que vous faites?
Bien, en gros, M. Arcan, c'est certain qu'il y a des enquêtes en cours. C'est certain que ça met des gens, comme vous voulez, à bouger. Là, ils doivent se mettre en mouvement, le milieu criminel. À quelque part, là, les armes qui sont vendues, mais c'est des fournisseurs. Donc, à un moment donné, si on coupe l'achat, si on coupe le fait qu'ils ne peuvent pas acheter ces armes-là, mais c'est certain qu'on va avoir probablement moins de coups de feu. On va avoir moins cette problématique-là. Donc, je vous dirais, en corrigeant du renseignement, en ayant des enquêtes à un autre niveau, ça nous permet, comme on dirait, de voir un peu plus clair de ce qui se passe.
Merci, M. Dubé. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir. Benoît Dubé, le directeur des enquêtes criminelles à la Sûreté du Québec et patron de l'escouade 100 ans.
L'essentiel de Paul Arcand. L'essentiel de Paul Arcand.
On parlait de politique tantôt, dans un an, l'élection provinciale, dans quoi, à peu près un mois, l'élection municipale, d'où l'importance de regarder les thèmes ou les sujets quand même importants. Pour Montréal et pour les autres villes du Québec, on parlait des armes à feu il y a quelques instants. On a vu une cinquantaine de personnes manifester samedi à Montréal pour dénoncer la situation dans le secteur de la rue Milton et de l'avenue du Parc. Problème majeur, et je dis majeur là, pour le voir tous les jours, d'itinérance autochtone dans le secteur. Des citoyens nous écrivent. J'en ai parlé il y a quelques mois, puis des commerçants aussi, qui veulent des actions des partis politiques, en tout cas des engagements, mais des actions rapides de la ville. Michael Ganoum est avec nous. Il travaille chez Empire Papier Peint, une entreprise donc qui est directement sur l'avenue du Parc. Monsieur Ganoum, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Pourquoi manifester? Qu'est-ce qui a fait en sorte que là, les citoyens puis les propriétaires, les employés du coin ont dit là, c'est assez?
Mais les citoyens, je dois dire que c'était surtout un sentiment de peur, parce qu'il faut comprendre la moyenne d'âge des gens qui ont fait cette manifestation est quand même assez vieux. C'est des gens qui sont des senior citizens, qui habitent Milton Park depuis toute leur vie, depuis les années 50, 60, 40 même. Et le problème de l'itinérance a pris un côté plus criminel depuis la pandémie. Et c'est non plus une issue vraiment de gens qui sont pauvres et de la pauvreté qui est juste là, mais il y a beaucoup de, comme vous avez parlé tantôt, de gangs de rue, mais il y a beaucoup d'établissements de gangs de rue dans le secteur. Et ces gens-là, maintenant, ont peur littéralement de sortir de leur maison. Et ça peut pas comparer peut-être aux peurs des itinérants qui vivent la réalité des gangs de rue dans la rue, mais en même temps, je pense que les citoyens ont eu assez de ça et que la ville ignore, mettons, leurs besoins aussi.
Ok. Ils sont décidés de manifester. Ouais. Je connais assez bien le secteur, là, passant là tous les jours, puis à différents moments de la journée, la police est là, il y a des disputes, il y en a qui sont dans le milieu de la rue, sont intoxiqués. C'est quoi la réalité pour vos clients, puis aussi pour vos employés?
Nos employés, maintenant, mettons pour mon magasin et pour les autres magasins autour, il y a un certain peur qui est là. Les gens n'avaient pas vraiment de problème avec l'intoxication jusqu'à temps que ça devienne la quantité de gens ou le nombre de gens intoxiqués dans la rue a pratiquement quintuplé. quand tu avais une dizaine de personnes qui sont dans la rue, tu peux être sympathique et tu peux pas nécessairement te protéger, mais tu vas être dans un scénario où tu es confortable de te promener et d'aller au travail. Mais quand c'est plus 10 et maintenant c'est 50 et c'est 60, et ils sont dans ton porte d'entrée, ils sont devant ton magasin, ils sont devant n'importe où est-ce que tu essaies de t'entourer, ben tu vas avoir beaucoup de problèmes. Il y a certaines entreprises sur la rue qui ont même le problème d'engager du monde parce que les gens veulent pas travailler dans le place de Milton Park. Et pour les clients, c'est des clients qui datent de plusieurs années, qui fréquentent la rue, puis vivent dans la rue, mais ces gens-là ont peur maintenant d'aller magasiner là-bas. J'ai des clients qui ont été complètement, probablement traumatisés, que leurs enfants ont été traumatisés par des scènes qu'ils ont vues.
Est-ce qu'il y a de ces itinérants là, qui vont jusqu'à bloquer l'accès au commerce et même entrer dans les commerces?
Oui, ça arrive à tous les jours. C'est pas les gens sont intoxiqués. Ils vont essayer de trouver quelque part à s'asseoir. Ils vont s'asseoir souvent dans les entrées de portes ou dans les entrées de portes où, comme si la porte est barrée, c'est un accès, c'est un exit ou quelque part comme ça. Mais à tous les jours, il y a tout le temps quelqu'un qui dort, par exemple, devant ma porte et malheureusement, on doit sortir, essayer de le sortir, essayer de le mettre quelque part où il va être sain et sauf. Et souvent, la personne est trop intoxiquée, puis on doit le bouger littéralement sur le coin de rue pour qu'on puisse ouvrir la porte.
Vous vous attendez à quoi des autorités municipales?
Mais les autorités municipales nous ont donné plein de réponses inconsistantes. Et c'est un peu pour ça que on a décidé de s'associer avec les marchands pour essayer de trouver une solution avec les trois niveaux du gouvernement. Et on veut essayer d'incorporer autant de personnes autour de cette question. Ce qu'on s'attend, c'est que la ville donne une fait quelque chose pour héberger ces gens-là, qui est plus qu'un simple shelter, qui est plus qu'un seul pour quelques lits qui pourraient dormir le soir. Ce qu'ils ont fait, mettons, dans le quartier Atwater, est magnifique. C'est un établissement qui a pu héberger les itinérants, qui les aide psychologiquement, qui leur aide avec la nourriture, qui leur aide avec tous leurs besoins. Parce que c'est ça vraiment que les gens ont besoin. C'est pas juste un petit sandwich au jour le jour ou quelque part dormir le soir. Ces gens ont besoin d'aide. Et c'est ça qu'on veut voir, du vrai aide. Et non pas juste du lip service.
Non. Merci, M. Ganoun. Bonne journée.
Merci à vous.
Michael Ganoun est de l'Association des commerçants et des marchands de l'avenue du Parc. Et la réalité est difficile, c'est clair, pour les commerçants, mais c'est pas bien mieux pour les Autochtones qui sont là. C'est-à-dire que, puis je vous le dis, là, ça fait des mois et des mois que ça dure, ça fait des mois et des mois que c'est inacceptable, que c'est pas tolérable, et que finalement, bon, ben, on se retrouve avec des gens comme ça, puis c'est dangereux, puis ça va mal finir. On sait qu'il y en a un qui est mort gelé dans une toilette chimique. Il y en a qui sont dans le milieu de la rue, qui se promènent entre les autos. Moi, il y a un auditeur qui m'a raconté qu'il y en a un qui a été heurté par un véhicule. Heureusement, c'était pas trop grave comme blessure. Mais et là, se mêle, ça c'est un autre phénomène, c'est qu'au-delà de l'itinérance, arrivent les gens qui, j'allais dire, sont criminalisés, puis tu développes une espèce de trafic dans le secteur. Puis je vous le dis, là, vous passez là une fois, puis vous avez une photo parfaite. Puis entre-temps, ben c'est malheureusement un discours un peu flou, incomplet, puis une espèce de charabia de la ville. Quand tu parles aux autorités de la ville qui s'occupent de ces questions-là, ben ça donne pas grand-chose. On n'a pas vraiment de conclusion.
L'essentiel de Paul Arcand.
Parlons de l'école du futur, mais pas un futur si lointain quand même, ce qu'on a appelé le projet Lab École. Donc, redessiner les écoles du Québec, rendre ça dans un environnement, j'allais dire, plus agréable, permettant une qualité de vie aux profs, aux enfants. L'intérieur, c'est bien. La cour où les enfants passent beaucoup de temps, c'est autre chose. Et on dévoile ce matin une nouvelle publication justement pour repenser les cours des écoles du Québec. Ricardo, qui fait partie de ce projet-là depuis le début, est avec nous. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Ben, d'abord, peut-être nous dire un peu qu'est-ce qu'on entend par cette consultation sur la cour des écoles au Québec.
En fait, on a réalisé que la cour, c'est de l'asphalte, souvent quelques aménagements sportifs, une clôture en broche tout le tour, et que les enfants vont passer là, je dirais, un 120 jours dans leur parcours scolaire, là, jusqu'à sixième année. C'est plus de en fait, c'est des milliers d'heures, comme 3000 heures, puis qu'il n'y a pas de budget alloué spécifiquement pour ça. Parce que c'est un budget qui est jamais préservé entièrement parce que des fois, il sert à décontaminer le terrain, à aménager le débarcadère des autobus. Donc, ce qui fait que quand tu finis, il reste quoi en réalité pour le vrai aménagement où les enfants vont pouvoir s'épanouir, manger, jouer dehors et passer du bon temps. Alors, on a vraiment travaillé autour de ça. On a observé au-dessus de 2000 enfants. On en a consulté. Puis c'est rare que tu vas direct dans les écoles et dire, OK, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez dans votre cours d'école?
Et qu'est-ce que les enfants veulent?
Bien, au-delà des sports habituels, le soccer, le basket, ces trucs-là, numéro un, des arbres. Les enfants, la biophilie, on le voit là, la nature, c'est hyper important. Ils aiment les parcours, les glissades, les objets où ils peuvent grimper, s'asseoir. Ils veulent des endroits où on peut passer du temps. Et il y a des écoles où les enfants n'ont pas le droit d'aller manger dehors l'hiver ou c'est l'automne. Ou, c'est vraiment très... c'est très bizarre de constater ça. Et quand tu demandes à un enfant, moi, je me souviens d'avoir dit à un enfant et un professeur, est-ce que vous voulez qu'il y ait des tables de pique-nique partout? Puis les profs m'avaient dit, c'est pas tant des tables de pique-nique que ça prend que des lieux où on peut s'asseoir, que ce soit des roches, des troncs d'arbres, que ce soit un petit mini agora fait dans une côte, parce que les enfants aiment se regrouper pour jouer, mais aussi pour manger, pour jaser, pour prendre du temps pour eux autres.
Et surtout, je dirais, puis là, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais en période de pandémie, on a découvert que quand la météo s'y prête, d'aller enseigner à l'extérieur, là, c'est peut-être une maudite bonne affaire.
C'est une maudite bonne affaire, puis c'est de réfléchir au climat. On est au Québec. Alors, comment ça se fait qu'il n'y a à peu près aucune école qui a un préau où les enfants peuvent sortir dehors, même s'il pleut, à boire debout? Pensez à la façon de réaménager l'école pour que, justement, ce ne soit pas un champ de boue, mais non plus un champ d'asphalte. Qu'on pense à la communauté. La cour d'école, c'est un lieu où on peut aussi jardiner, on peut partager avec la communauté. Ça doit être autant l'école à l'intérieur que la cour doit être accessible à la communauté 7 jours sur 7, chaque fois qu'on a besoin, dès que les enfants sont pas directement en activité. Puis exactement, toutes les écoles qui ont des petits mini-agora ou des lieux pour se rassembler, on voit la différence. Les profs adorent ça, puis c'est libre à eux. Puis tu peux, peu importe la matière que tu enseignes, souvent ça peut s'y prêter. Des fois, il y a deux classes qui se regroupent. Faut pas oublier que toutes nos études découlent de professionnels du milieu de l'éducation à travers le Québec. Ce qu'on propose là, c'est souvent des trucs qui existent déjà, qui sont faits à un endroit précis, mais comme on se parle pas beaucoup, ben souvent, il y a des trucs qu'on se dit, ah, c'est impossible, par exemple, d'avoir du jardinage à grande échelle à l'école, alors que tu vas dans un centre de service, dans le bout de Trois-Rivières, puis ils font des tonnes de légumes. Il y en a qui ont beaucoup, beaucoup de talent là-dedans, puis c'est de réunir ça ensemble, puis de faire en sorte qu'on se réapproprie, puis surtout qu'on s'organise dans nos budgets pour avoir un montant précis pour les enfants. Pour les il y a beaucoup de cours, il n'y a pas d'eau dehors. Alors, si tu dis « je veux boire » ou « je veux arroser une plante », ben c'est des trucs aussi simples que ça de dire « OK, on la prend où notre eau ?» On a fait des tests, il y a des écoles, il faut que le boyau arrive du restaurant à côté qui te le prête. Il y a des trucs un peu abracadabrande des fois, mais c'est la logique de remettre nos yeux à hauteur d'enfant. C'est ça qui nous a inspiré, de dire « OK, si j'avais 12 ans, si j'avais 7 ans, si j'ai 4 ans puis je suis en maternelle 4 ans, qu'est-ce qui va me rendre heureux quand je vais jouer dehors? » Puis en plus, un enfant qui s'épanouit dehors parce qu'il a pris le temps de manger ou de jouer ou juste de prendre l'air, ben c'est un enfant qui est beaucoup plus ouvert à apprendre à l'intérieur. Ça fait une classe qui est plus calme, plus sereine. Donc, un professeur qui a beaucoup plus de plaisir aussi. Tu sais, s'il passe son temps à faire de la discipline, c'est pas toujours stimulant. Fait que ça, c'est des commentaires qu'on a entendus beaucoup du corps enseignant. C'est vraiment un lien, puis beaucoup d'écoute, puis revenir à la base.
En terminant, le projet Lab École, là, il évolue comment? On est rendu où?
Ben, il évolue vraiment très bien. C'est sûr que la pandémie, ça nous a mis un peu des bâtons dans les roues. Mais tu sais, OK, si on regarde l'école de Québec, ceux qui sont dans la région de Limoilou, il faut aller voir, l'école est très avancée. Saguenay aussi, c'est un chantier qui avance très bien. Masquinongé, j'étais là il y a 2 semaines, c'était la première pelletée de terre. Donc, au cours de 2022-2023, la plupart des écoles vont être pas mal avancées. Shefford, on est en train de refaire, de finaliser l'appel d'offres. Ça, c'est des trucs aussi. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, la surchauffe fait en sorte que des fois, tu te dis, OK, Est-ce qu'on refait une nouvelle appel d'offres? Comment ça fonctionne? Bon, là, donc le gouvernement avec le Trésor doit prendre des décisions. C'est toujours un peu complexe parce que tu dis, mettons que mes bureaux sont trop petits puis que la surchauffe fait que tout augmente de façon astronomique, je peux attendre. Mais est-ce qu'on peut attendre pour construire une école pour des enfants qui sont dans une roulotte depuis un an, deux ans? C'est un grand questionnement, puis il faut trouver des solutions pour ça, mais ça avance très, très bien. Nous autres, notre objectif, c'était vraiment de dire, on va faire les choses autrement, on va essayer de les faire en tenant compte des nouveaux besoins pour les générations à venir, puis que le gouvernement puisse piger là-dedans, s'inspirer, puis on le voit déjà là dans les écoles qui se font. Il y a beaucoup d'écoles maintenant, tu sais, je veux dire, toutes les écoles vont avoir un lieu pour manger. S'il y a une école qui est construite aujourd'hui puis qui n'ont pas de salle à dîner, c'est vraiment des imbéciles finis, là. C'est parce que c'est clair, là. Tu sais, je veux dire, je voudrais pas me présenter publiquement puis être celui qui a décidé que l'école aurait pas de lieu pour manger en 2022, là, bientôt. Alors, mais ça avance, puis moi, je suis très inspiré, puis c'est inspirant de voir que tout le milieu de l'éducation veut ça. Le gouvernement suit, ils ont des objectifs précis malgré les difficultés économiques dues à la COVID.
Merci Ricardo, bonne journée.
Ben merci.
Salut, bye bye, c'était Ricardo. Le point de presse va suivre là-bas dans quelques minutes. Mais quand même intéressant de voir comment... Et c'est vrai, quand il parle des cours d'école, là, qui sont les parents devaient se cotiser puis organiser des opérations... En disant, bon, ben, si vous voulez avoir tel équipement dans la cour, ben, là, ça relève pas du centre service scolaire. Tu dis, ouais, mais je paye des taxes. Ouais, mais c'est pas là-dedans. Puis vendez des pommes, puis vendez des rouleaux de papier de toilette. Si vous voulez, vous payez quelque chose.
L'essentiel de Paul Arcan.
C'est 23.